Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Radio Inzamba Gatekakawe, nous sommes mardi 22 février 2022, c'est le moment du journal en français, dont voici d'abord les principaux titres. L'Association pour la défense des droits des prisonniers APRODH demande que toute la lumière soit faite sur le cas des prisonniers dernièrement tués dans l'incendie à la prison de Gitega. Cette demande a été adressée au président Evariste Ndayishimiye. C'était samedi dernier lors de sa rencontre à Bruxelles avec les Burundais vivant en Belgique et dans les environs. Grogne des agriculteurs de la province de Ngozi. Ils ont payé l'engrais chimique de type FOMI, mais ne sont pas encore servis. Ils craignent une mauvaise production pour la saison culturelle prochaine. Le Covid-19 est aujourd'hui maîtrisé au Burundi selon l'annonce de la ministre Sylvie Nzeyimana ayant la santé dans ses attributions. On fera le point dans ce journal. Voilà pour le sommaire de ce journal à la présentation. Joséphine Johnson-Mundimana, soyez tous les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Bienvenue encore une fois dans ce journal. L'Association de défense des droits des prisonniers APRODH a demandé au président Evariste Ndayishimiye d'user de son pouvoir pour que toute la lumière soit faite sur la mort des prisonniers dans la prison de Gitega. La demande a été faite samedi dernier lors de sa rencontre avec les Burundais de la diaspora, rencontre qui s'est passée à Bruxelles. Certaines familles des victimes réclament toujours que les leurs soient identifiés et enterrés dignement, selon Pierre Monima, président de la APRODH. Il réclame par ailleurs que les débats de la rencontre du chef de l'État avec la diaspora de Belgique soient diffusés à la télévision nationale. Pierre Claver Monima indique que plusieurs sujets d'intérêt nationaux ont été soulevés. On l'écoute.
La première question concernait juste les prisonniers qui sont morts à la prison de Gitega. Bon, cette question était venue des familles et des victimes qui n'ont pas pu enterrer les leurs, qui ne savent, mais il y a même ceux qui ne savent pas que les personnes qui étaient en détention sont mortes jusqu'à présent. Alors, je lui ai posé la question comment ça s'est passé puisqu'il a ruiné, il m'avait accepté que 46 prisonniers sont morts et qu'ils ont été enterrés dignement alors que les familles n'étaient pas là. Moi, je lui ai dit que nous avons fait des enquêtes et que nous avons plus de 46, même plus d'une centaine. Les autres pour lesquels je lui ai demandé de dire au directeur de la prison de Gitega et de faire un inventaire des prisonniers parce que c'est très facile. Et depuis l'incendie de la prison de Gitega, il n'y a aucun prisonnier qui est entré, mais le directeur détient les dossiers, les photos, la liste des prisonniers qui étaient là à ce moment. Et même aujourd'hui, il fait alors faire le comptage et il pourra savoir les prisonniers qui restent et les prisonniers qui sont morts. Et comme ça, on abaisse les familles et on organise des enseignements comme symbole. Et comme ça, les familles pourront quand même être au courant que les gens sont morts ou qu'ils sont encore vivants. Bon, dans la salle, il n'y avait pas d'autres journalistes que ceux de la radio Télévision nationale du Burundi. Alors, je demanderai au directeur général de cette radio Télévision nationale du Burundi de publier tous les échanges qui ont eu avec le président de la République. Parce que si vous cachez ce que la population a dit au président, c'est un autre moyen d'enfoncer le pays.
Et puis le président du CNL clame haut et fort que son parti n'est pas responsable des manifestations hostiles au pouvoir burundais organisées à Bruxelles ce samedi devant le Conseil de l'Union européenne. Dans un entretien accordé à la radio Isanganiro, Agathon Gwasa indique également que son parti n'est pas associé aux groupes armés basés à l'est de la RDC. Il réagit aussi aux accusations du chef de l'État à son retour du 6e sommet Union africaine-Union européenne tenu à Bruxelles, accusant le parti CNL d'avoir mobilisé des Burundais en exil pour faire des manifestations à Bruxelles contre Gitega. Suivez Agathon Gwasa.
J'ai entendu le président dire que les gens du CNR ont quitté le Burundi par voie aérienne pour aller manifester. Je pense que ça, c'est quand même une accusation gratuite. De toute façon, les migrations sont contrôlées, les services concernés peuvent vérifier les départs du Burundi. Donc, quels sont ces militants qui ont quitté le Burundi pour aller manifester à Bruxelles? Par ailleurs, j'ai senti des sentiments très négatifs. Lorsqu'il dit qu'on est associé à des groupes qui sèment la terreur dans l'est du Congo, moi je me dis que soit ces services de renseignement lui font de faux rapports, soit il y a un agenda caché par rapport à cette question sécuritaire. La société civile congolaise déplore la présence de ces groupes-là qui sèment la terreur. La liste que cette société civile-là évoque, il n'a jamais été fait mention du CNR. Je pense que le parti CNR est sur le terrain ici au Burundi. Les organes du parti sont ici au Burundi et le rapport actualisé a été donné au ministre de l'Intérieur. Depuis que le CNR existe, il ne figure nulle part sur la liste des responsables du parti, son nom de Aimé. Il dit que s'il y a une question qui tient à cœur, que le débat doit se faire au sein du forum des partis politiques. Il est régi par quelle loi? Le droit de manifester est consacré par la constitution burundaise. Malheureusement, je pense que si on m'amène les gens pour une simple réunion dans une permanence, ça ne serait pas aisé d'accepter que les gens manifestent sur la voie publique. S'il faut manifester pour soutenir le pouvoir, là vraiment c'est automatique. Mais s'il faut exprimer un grief, je pense que non.
Le président Évariste Ndayishimiye devrait repenser la politique de cohésion nationale. C'est le souhait de Faustin Ndikumana, président de l'ONG locale Parsem. Parole et action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Pour lui, ce qui s'est passé lors de la dernière visite du président burundais en Belgique, en marge du sommet entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, montre que la fracture au sein des Burundais est toujours béante, d'où la nécessité de recoller les morceaux du tissu social déchiré à travers un débat inclusif autour de la cohésion. On écoute Faustin Ndikumana.
La récente visite du président de la République à Bruxelles a prouvé combien, au sein de la société burundaise, la fracture est encore criante. Et avec une radicalisation visible des uns des autres, une radicalisation outrancière. Mais ce qui est important, c'est de se souvenir, de considérer que tous ceux qui ont manifesté, tous ceux qui ont participé dans la conférence du président de la République sont tous des Burundais. Sont des fils et filles de ce pays, et sommes tous le président de la République, qui reste le président de tous les Burundis, de tous ceux qui ont participé à la conférence, de tous ceux qui n'ont pas participé à la conférence, c'est le président de tous. Donc il a la rôle de responsabilité de relever ce défi, en essayant de rapprocher, de rassembler ses fils et filles, ou même Berkaï, quelle que soit l'énergie qu'elle sera peut exiger. Il faut que quand même ce débat soit une réalité. Et nous le disons parce que très récemment nous avons parlé du défi de la cohésion nationale au moment où nous célébrions la journée dédiée à l'unité. Donc ce qui s'est passé à Bruxelles prouve combien ce débat est plus qu'urgent. On ne devrait pas boucler 60 ans d'indépendance en observant encore une telle fracture criante au sein de la société burundaise.
Le renforcement de l'unité nationale reste un chemin long au Burundi. C'est du moins l'analyse de la campagne SOS Torture dans son bulletin mensuel de justice. Cette analyse porte sur les propos de certaines autorités du pays lors de la célébration du 31e anniversaire de l'unité nationale en date du 5 février de cette année 2022. Aimé Kwizera, le chargé des programmes et des publications au sein de SOS Torture, estime que les discours de ces autorités sont loin de dire la réalité en matière de la réconciliation des Burundais. Écoutez.
Le chef de l'État a notamment invité les Burundais à pérenniser et à préserver la cohésion sociale entre frères et fils de la nation qui sont respectueux des valeurs d'Ubuntu. Le président de l'Assemblée nationale a quant à lui rappelé que le 5 février 1991, les Burundais ont voté par référendum la charte de l'unité nationale sans contrainte, tout en souhaitant que ce soit une unité véritable, sans hypocrisie ni mensonge, avec amour qui se matérialise dans les actes et non seulement dans les paroles. Mais nous constatons malheureusement que depuis l'adoption de la charte de l'unité nationale au 5 février 1991, tous les discours se sont prononcés mais ne sont jamais traduits en actes. En témoignent des épisodes de violence qui ont marqué le pays un peu après. Concernant la situation actuelle, nous avons pris l'exemple de trois événements qui ont marqué les deux premiers mois de l'année 2021 et qui illustrent le déchirement continué du tissu social, à savoir, premièrement, le dernier rapport d'étape de la CVR du 20 décembre 2021 qui, au lieu et place de faire le consensus, continue à semer la discorde à travers les médias et les réseaux sociaux. Deuxièmement, c'est la polémique sur le fichage ethnique dans le secteur public et privé introduit par le ministre de l'Intérieur qui continue à diviser les collègues. Des manifestations contradictoires du 19 février 2022 en Belgique où le président de la République a été accueilli par certains Burundais au rythme des chansons et tambours alors que d'autres manifestaient contre lui pour dénoncer les multiples violations des droits humains. Nous recommandons donc aux autorités de redresser cette pente en tirant des leçons des échecs du passé pour redresser effectivement la pente. Et cela suppose le respect des engagements constitutionnels, régionaux et internationaux en matière de respect des droits humains. Quant à la justice traditionnelle, nous recommandons la promotion d'une sévère non instrumentalisée et qui répond aux attentes de toutes les victimes des affres du passé et susceptible de garantir aux Burundais le droit de savoir, le droit à la justice et le droit à la non-répétition. Car autrement, la charte de l'unité nationale n'aurait jamais eu lieu.
Pourquoi le port du masque est-il obligatoire pour les personnes vaccinées? En l'état des connaissances, les vaccins aujourd'hui disponibles ou en cours de développement réduisent la sévérité des symptômes. La contagiosité diminue également, mais ne disparaît pas totalement. Les gestes barrières, dont le port du masque, restent donc nécessaires même après la vaccination.
Ceci est un message de la radio Inzamba à Katekakawe.
Santé à présent, la pandémie du Covid-19 est actuellement maîtrisée dans le pays. Annonce faite par le Comité national de riposte contre la Covid-19, c'était ce lundi. Le comité indique que des cas positifs sont inférieurs à 20 par jour ces derniers jours. Docteur Sylvine Zeimana, ministre chargée de la santé publique, qui s'est exprimée au nom de ce comité national de riposte contre la Covid-19, appelle la population à ne pas baisser la garde et continuer à appliquer les mesures barrières. Suivez.
Ces derniers jours, nous constatons que les cas positifs sont même inférieurs à 20 par jour dans tout le pays. Et au début, la première semaine de l'année 2022, il y avait une flambée des cas positifs à la maladie. L'autre constat que l'on a fait, c'est que parmi les quelques cas testés positifs à la COVID-19, il y a des voyageurs qui passent par l'aéroport international Mekio Zandaï. Nous profitons de l'occasion de lancer un appel à la population burundaise pour dire que même si la pandémie est actuellement maîtrisée dans notre pays, il faut continuer à se protéger contre la maladie parce que la pandémie au monde est toujours là.
Je vous le disais en titre, les agriculteurs de la province Ngozi se lamentent du fait qu'ils n'ont pas encore obtenu l'engrais chimique du type FOMI alors qu'ils ont déjà payé. Ils disent qu'ils sillonnent partout dans les hangars de distribution mais ne reçoivent rien. Ils craignent d'être en retard par rapport à la prochaine saison culturelle. Ils demandent que le problème soit résolu, sinon ils sont exposés à la famine dans un proche avenir. Les détails avec Vanessa Mohiteka.
Les agriculteurs de la province Ngozi disent qu'ils ont payé des avances pour obtenir des engrais chimiques, mais jusqu'à présent, ils n'en trouvent pas. Ils trouvent qu'ils peuvent rater la prochaine saison culturelle. Ces agriculteurs affirment chercher tous les jours dans des hangars de distribution, mais aucune réponse n'est donnée en faveur de leur demande.
Nous sommes déçus par l'usine Fomi. Nous passons tout le temps dans la rue, allant de hangar en hangar, à la recherche de l'engrais, mais en vain. Nous nous sommes dépensés pour payer les avances. Mais alors, c'est pendant ces jours-ci qu'il fallait semer. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons à la DPAE, nous ne l'obtenons pas. Nous nous rendons dans les différents hangars, c'est la même chose. Je viens de la commune Gachikanoa. J'ai payé le ticket de transport. On me renvoie à tel ou tel autre hangar, mais je ne trouve rien. Vraiment, nous souffrons énormément. Même s'il est disponible, on dirait qu'il est destiné à d'autres personnes.
Ces lamentations ne s'observent pas seulement en province Gozi. La carence d'engrais chimiques se généralise de plus en plus dans le pays et la population craint que la famine ne surgisse dans les mois à venir. La rédaction de la radio Inzamba a tenté de joindre le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage en province Gozi pour qu'il dise ce qu'on est en train de faire pour résoudre le problème, mais sans succès.
Dernier dossier de ce journal, la Cour suprême du Kenya a ordonné le gel de 2 millions de dollars américains pendant 90 jours. Cet argent a été saisi par les douaniers de Kenya Revenue Authority à l'aéroport international Jomo Kenyatta la semaine dernière en provenance de la banque de crédit de Bujumbura BCB. Cette décision de la Cour intervient dans le cadre des enquêtes approfondies pouvant déterminer la destination finale de cet argent. Les précisions avec Benny Axelakana.
Selon le quotidien kenyan, Kenya News, la juge de la haute cour, Esther Maina, a ordonné que l'argent soit gelé pendant 90 jours à la suite d'une demande de l'agence de recouvrement des actifs. Les documents déposés au tribunal montrent qu'une déclaration d'exportation avait été déposée du Kenya vers le Royaume-Uni auprès de l'expéditeur pour les 2 millions de dollars indiqués sous le nom de Brinks Kenya Limited, tandis que le destinataire était indiqué sous le nom de Brinks Global Services UK. L'agence de recouvrement des actifs a déclaré que l'argent provenait de Bujumbura au Burundi et était destiné au Kenya, mais qu'il avait été intercepté alors que le voyageur tentait de l'expédier à Londres sans être déclaré. L'agence affirme que l'échec délibéré de ne pas déclarer les fonds et de tenter de les réexpédier au Royaume-Uni via le point de frais dépeint un stratagème monétaire mené pour dissimuler les bénéficiaires, l'origine et la source. Le voyageur, identifié comme étant Paul Kemboi, a été soupçonné de faire partie d'un système de blanchiment d'argent après avoir échoué de déclarer son argent liquide comme l'exige la loi. Sur son compte Twitter, la BCB a reconnu cette somme de 2 millions de dollars américains, indiquant ainsi que ce montant lui appartient. La BCB parle d'une activité bancaire de routine et autorisée par la Banque centrale.
Merci Benny Axelakana pour toutes ces précisions et c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.